Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Une bibliothèque ne fait pas que conserver des livres. Elle vit et comme tout organisme vivant, elle grandit, elle évolue, bref, elle s'enrichit par des achats ou par des dons. Quels sont les enrichissements de la bibliothèque de l'Institut de France? C'est la question que je vais poser à mon invité, Mireille Pastoureau, directeur de la bibliothèque de l'Institut de France, une bibliothèque qui réunit les bibliothèques des 5 académies, Académie française, des inscriptions et belles-lettres, des sciences, des beaux-arts et des sciences morales et politiques qui composent l'Institut de France. Bonjour Mireille Pastoureau.
Bonjour Hélène.
Merci de venir dans notre studio de Canal Académie. Nous avons déjà fait ensemble une première émission sur les enrichissements de la bibliothèque entre l'année 2003 et l'année 2005. Et maintenant, vous souhaitez que nous parlions des enrichissements de la bibliothèque entre l'année 2006 et 2009.
Oui, ça devenait tout à fait urgent parce que nous avons eu beaucoup de dons, de généreux donateurs. Donc, il fallait vraiment manifester notre reconnaissance à l'égard des généreux donateurs et montrer des petits exemples. Nos vitrines ne sont pas extensibles, donc on ne peut pas tout montrer. Mais nous avons souhaité montrer quelques exemples assez variés de tous les dons qui ont été faits à la bibliothèque et des quelques achats que nous avons pu réaliser avec notre modeste budget.
Alors, la première nouveauté qui arrive dans la bibliothèque, ce sont les chroniques de Nuremberg. Donc, on se doute qu'elles ne datent pas d'hier. Elles datent de 1493. C'est une édition déjà en allemand. Est-ce que c'est rare? Est-ce qu'il y en a beaucoup?
Alors, c'est un livre extrêmement célèbre. C'est un incunable. C'est un monument de la typographie. En plus, cet exemplaire est colorié, c'est un livre imprimé, mais illustré de figures sur bois gravées, et certaines sont coloriées, certains exemplaires, donc celui-là est colorié. Il nous vient du musée Marmottan, qui est un magnifique musée que vous connaissez pour les collections de Monet, mais qui ne peut pas accueillir dans sa bibliothèque de lecteurs comme une bibliothèque d'études comme nous, donc le musée Marmottan nous a donné 18 ouvrages anciens, nous a transmis 18 ouvrages anciens, et parmi lesquels ce très bel exemplaire des Chroniques de Nuremberg, qui est une chronique universelle imprimée à Nuremberg, donc comme vous le disiez, en 1493, et qui relate l'histoire du monde avec beaucoup de gravures, dont certaines sont typographiques. Il y a 1809 gravures en tout, et certaines de ces gravures offre les premières représentations que l'on a de certaines cités allemandes notamment. Et en revanche, d'autres gravures sont totalement fantaisistes. C'est très variable. Ça, c'est l'époque qui veut ça.
Après ces chroniques de Nuremberg, il y a aussi un ouvrage, donc plutôt du XVIIe siècle, de Philippe de la Hire. C'est un cours d'architecture. En quoi est-il remarquable?
Oui, ça, nous sommes très contents. C'est un manuscrit qui nous a été donné, était vendu, mais à un prix assez intéressant par un particulier qu'il avait lui-même acheté sur le marché des antiquités. Et Philippe de la Hire était professeur de mathématiques au Collège de France ainsi que à l'Académie de peinture et d'architecture. Il était astronome et mathématicien et il était membre de l'Académie des sciences. Et donc c'est le texte de son cours. Ça date de la fin du XVIIe siècle. Nous sommes à l'époque de Louis XIV. Donc, c'est extrêmement intéressant pour nous d'avoir un cours qui a été fait devant une académie. Ces académies royales qui ont été supprimées à la Révolution, mais nous les avons adoptées, bien qu'étant une institution républicaine à l'Institut national. Donc, nous nous consacrons aussi à l'histoire de ces académies. Donc, c'est vraiment un document intéressant, manuscrit sur papier, avec quelques croquis géométriques. C'est quelque chose de très rare, oui.
Continuons dans les siècles et je vois que là nous arrivons en 1817, donc un ouvrage original, une édition en deux volumes par le célèbre éditeur et imprimeur Didot. Mais alors il a une particularité ce volume, racontez-nous.
Oui, il a attiré notre attention parce que c'est l'histoire de la peinture en Italie, donc c'est un livre qui nous vient aussi du musée Marmottan et la page de titre indique seulement par MBAA. Et bon, quand on a un peu d'expérience des livres, on sait qu'il s'agit de Monsieur Bell, ancien auditeur au Conseil d'État, autrement dit Stendhal.
Ah, il
c'est
faut déchiffrer.
De la peinture en Italie de Stendhal, et voilà. Ouvrage que Stendhal a publié anonymement, donc c'est assez intéressant. Et ce qui est très amusant, c'est la dédicace de Stendhal qui est imprimée dans le livre, où il indique « To the happy few ». Voilà.
Bien. Est-ce que les académiciens actuels vous offrent des livres aussi, vous font des dons ?
Ça, c'est une grande originalité, une grande chance de cette bibliothèque. C'est sa proximité avec son premier cercle de lecteurs, qui est le cercle des académiciens. Et nous avons eu notamment le professeur Bernard Potier, qui est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui nous a donné un ouvrage qui est montré, mais il a donné aussi d'autres documents, manuscrits ou imprimés. Il est spécialiste de linguistique espagnole et d'Amérique du Sud, de ces langues. Et là, nous avons un livre imprimé à Cadix en espagnol en 1858, une grammaire française imprimée à Cadix en 1858. Donc, c'est vraiment une curiosité. Et ces éminents spécialistes, naturellement, savent recueillir des documents pointus, rares, spécialisés. Et c'est tout à fait ce qu'il faut pour notre bibliothèque.
Alors, vous avez accueilli donc des livres, on vient de le voir, même un incunable, des manuscrits aussi. Mais il y a aussi des photos, des dessins et des lettres en grand nombre de la correspondance.
Oui, la correspondance est une grande source pour l'histoire littéraire à venir. C'est vraiment les chercheurs maintenant connaissent à peu près tous les manuscrits qui existent, de textes, d'œuvres. Mais dans la correspondance, on peut trouver énormément de choses, des éléments biographiques, mais également sur l'œuvre. Et donc, nous avons plusieurs fonds qui ont été donnés, qui comportent des correspondances très intéressantes. Alors, nous avons été très heureux que Madame Madeleine Ambrière, qui est professeure émérite à la Sorbonne, ait fait une deuxième donation en complément du fonds qu'elle avait créé en 2002, un fonds à la mémoire de son mari, Francis Ambrière. Et c'est une collection que son mari et elle avaient constituée leur vie durant, de documents du XIXe siècle, extrêmement intéressants, ayant trait à l'histoire littéraire et théâtrale. Et ce sont des choses extrêmement intéressantes. Nous exposons une lettre de Maxime Ducamp, mais naturellement, il y a beaucoup d'autres choses. Et le deuxième volet de ce fonds est composé des archives de Francis Ambrière lui-même, qui était un historien, mais également un critique littéraire et de théâtre, et qui avait lui-même fait des études de théâtre. Donc, nous avons beaucoup d'archives extrêmement intéressantes à la fois pour le 19e et le 20e siècle grâce au fonds Madeleine et Francis Ambrière.
Et il existe aussi un fonds Alfred Le Châtelier, c'est aussi la famille.
La famille Le Châtelier, c'est extrêmement intéressant parce que notre bibliothèque contenait déjà un fonds du Comité de l'Afrique française et Alfred Le Châtelier était un officier français qui avait effectué de nombreuses missions en Afrique et qui, finalement, dans la deuxième partie de sa vie, était professeur au Collège de France. Et la famille nous a donné ce fonds, et nous en sommes très reconnaissants, vraiment très heureux de cette élégance et de cette simplicité avec laquelle ces documents ont été donnés à la bibliothèque pour servir à la science.
Autre fonds important, je crois avoir découvert, que c'est le fonds André Mauroy, qui porte d'ailleurs un nom, Mauroy Caillavet Pouquet. Expliquez-nous pourquoi noms.
C'est une mine, ce fonds, c'est une mine, car il provient de la famille Mauroy, mais c'est un petit peu compliqué, puisque André Mauroy avait deux épouses, la première qui est décédée en 1923, et la seconde qui est très connue, qui est Simone, née de Caillavet. Et Simone de Caillavet, qui est la fille de l'auteur dramatique Gaston Armand de Caillavet, appartenait à une famille où on conservait tout et où on s'écrivait énormément. Et donc, son père était auteur dramatique et sa mère s'appelait Jeanne Pouquet. Et la mère et la fille s'écrivaient tous les jours et chacune gardait même un double de ses lettres. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que tout ce fonds, Mauroy, Caillavet, Pouquet, s'est retrouvé dans les mains de la dernière héritière, en quelque sorte, qui était Michèle Mauroy, la fille d'André Mauroy, qui a conservé tous ses papiers, qui les a classés, qui en a tiré plusieurs ouvrages, mais qui est décédée en 1994. Et c'est grâce à son mari, donc veuf de Michèle Mauroy, qui était le professeur Naquet, professeur Robert Naquet, correspondant de l'Académie des sciences, c'est grâce à lui que ce fonds a commencé d'entrer dans notre bibliothèque. Et malheureusement, le professeur Naquet est décédé avant d'avoir pu nous transmettre tout le fond. Donc c'est sa sœur qui a hérité de cela et qui a accompli le désir de son frère. Et donc tout ce fond est arrivé tout récemment dans notre bibliothèque. Et c'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est une famille donc, où on gardait tout. Donc on a des archives extrêmement diverses et il y a des passages extrêmement intéressants, notamment pour la biographie d'André Mauroy, son enfance, des documents qui viennent depuis, oui, son enfance, lorsqu'il était élève d'Alain au lycée de Rouen, et ensuite toute la vie littéraire d'André Mauroy, son exil aux États-Unis pendant la guerre, toutes les correspondances croisées qui racontent tout ce qui se passait, et puis aussi toute la partie dont, comme je vous disais, Gaston de Caillavé, Pouquet, etc., famille qui avait des attaches en Dordogne. Donc, ça sera vraiment une mine quand le fond pourra être classé, ce qui n'est pas encore le cas parce que c'est très abondant.
Ça prend beaucoup de temps pour classer un fond.
Un fond comme celui-là, ça sera long et il faut une personne qui se plonge dans le sujet, qui soit tout de même compétente, cultivée. Donc, il faut trouver la bonne personne.
Mais ça et qui vient travailler pendant quoi ? Plusieurs mois, plusieurs années ?
On verra. Là, je ne peux pas vous dire pour le moment. Tout dépend aussi du degré de détail dans lequel on veut faire l'inventaire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un fonds énorme qui est arrivé dans des cartons, mais aussi dans des valises. Enfin, c'est quelque chose... C'était extraordinaire, vraiment. C'est très, très émouvant pour un conservateur de recevoir un fonds comme ça, directement d'une famille. Tout en sachant que moi, je suis très reconnaissante à Michel Mauroy d'avoir conservé tous ces papiers, de les avoir triés et avoir pensé qu'ils avaient cet intérêt historique qu'ils conservent.
Alors, dans votre bibliothèque, vous accueillez aussi, puisqu'il y a des membres éminents de l'Académie des Beaux-Arts, vous accueillez des livres d'artistes. Alors, qu'est-ce qu'un livre d'artiste ?
Alors, un livre d'artiste, c'est quelquefois autant un objet ou une gravure qu'un livre. C'est un livre très artisanal qui résulte de la collaboration d'un artiste, souvent un graveur, mais il peut y avoir un calligraphe. L'éditeur joue naturellement un rôle très important parce que le papier, les caractères, la reliure sont choisis de façon particulière pour qu'il y ait une harmonie générale. Le tirage est en général à très peu d'exemplaires. Ce sont des livres que l'on collectionne, des particuliers en collectionnent, certaines bibliothèques aussi se font une spécialité. Et nous avons eu la chance de recevoir des dons. Monsieur Louis Berge, qui est un graveur au burin de l'Académie des Beaux-Arts, de Monsieur Lucien Clerc, qui est le grand photographe que l'on connaît, titulaire du premier fauteuil de photographie à l'Académie des Beaux-Arts, Monsieur Jean Cortot, qui est absolument merveilleux, Monsieur Claude Parent, Monsieur Kiyevic, Monsieur de Rougemont, qui fait des livres magnifiques, super, avec des coloris tout à fait lumineux. Et donc, nous avons maintenant à la bibliothèque un fonds de livres d'artistes des membres de l'Académie des Beaux-Arts et nous en sommes très heureux.
Vous avez aussi un autre fonds. Alors là, on va plutôt aller vers l'Académie française. Tout à fait surprenant, ce fonds, il est constitué des archives littéraires de Bertrand Poirot-Delpech, qui n'est pas décédé il y a très longtemps et qui vous est arrivé
exactement,
par ses enfants.
Par ses enfants. Et nous sommes très heureux de la confiance qui nous a été faite parce que notre bibliothèque, vous savez, a une connotation historique et patrimoniale. Donc là, vraiment, nous sommes maintenant ancrés dans le XXe siècle avec ces archives Poirot-Delpech. Et c'est un fonds très riche et très complet qui contient des archives littéraires, des manuscrits d'œuvres, des documents préparatoires, des correspondances, des articles, parce qu'il avait collectionné, ça c'est très important pour nous, les articles rédigés sur ses œuvres, donc pour la réception de ses œuvres. Il était aussi journaliste, vous le savez, essayiste. Donc, il a écrit plus de 25 ouvrages. Il était entré au Monde à 22 ans. Donc, on a une petite carte d'Hubert Beuve-Méry à ses débuts. C'est tout à fait merveilleux, qui lui prédit une brillante carrière. Et il a tenu au Monde la rubrique universitaire, la chronique des grands procès, la critique théâtrale, le feuilleton des livres et à la fin, une libre chronique hebdomadaire. Donc, tout cela fait un ensemble tout à fait remarquable, très lié à notre institution et très original.
Et en tant que grand chroniqueur et grand directeur de journal, il était en correspondance avec tous les grands noms de l'époque, je suppose.
Exactement, et on a des lettres d'amis, mais aussi d'amateurs ou simplement de particuliers. C'est très intéressant, il gardait tout. C'est assez amusant parce qu'il avait beaucoup d'humour, donc... Je ne sais pas si vous avez vu la lettre du monsieur qui lui écrit « Jouez-vous de l'accordéon, moi aussi, etc. J'ai un... » Il donne la description de l'accordéon. Et Poirot Delpech a gardé sa réponse. Il répond « Cher monsieur, merci pour votre sympathique signe d'amitié. Moi, j'ai 55 ans. Je n'ai qu'un honneur à touche piano. Je bricole, sincèrement.
» Il y a aussi une très amusante lettre de Jan Kefelek, donc l'écrivain que l'on connaît, sur une grande enveloppe qui était marquée « par avion ». Kefelek avait rayé et avait remplacé ça par « bateau ». Et il s'adressait à M. Bertrand Poirot Delpech « aux bons soins des vents alizés en mer ».
Voilà, oui, c'est joli, Poirot Delpech avait entrepris de traverser l'Atlantique et voilà, il lui avait confié cette enveloppe. Oui, c'est étonnant, c'est très amusant.
Et enfin, vous avez aussi reçu des revues. Alors, il y a les revues de cinéma qui vous ont été, je crois, oui, envoyées par un grand amateur.
Exactement, M. Frédéric Vitoux qui nous a donné des revues devenues très rares. La revue Positif, 452 numéros, dans laquelle il a écrit régulièrement depuis 1966. Donc, c'est une façon pour nous de conserver toute sa contribution à Positif. Il nous a donné aussi 4 numéros de Midi, Minuit, Fantastique, qui sont devenus rarissimes. Nous en sommes très heureux. Et nous avons notamment exposé un numéro très rare sur érotisme et épouvante dans le cinéma anglais. Enfin, moi, je trouve
tout
ça très
programme.
Bien. Voilà, tout à fait. Voilà.
Et alors, vous avez aussi reçu d'autres revues?
Tout à fait. Alors, nous sommes très heureux du don de Madame Elina Powels, qui est la veuve de Louis Powels, membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui nous a donné la revue Planète et Le Nouveau Planète, que Louis Powels avait créé et dirigé. Et elle a également donné l'épée d'académicien de Louis Powels, qui est une magnifique épée, qui est un joyau, qui est l'œuvre d'un membre de l'Académie des Beaux-Arts, le graveur Pierre-Yves Trémois. Une très jolie épée d'académicien, faite en 1986.
Alors Mireille Passoureau, pour terminer ces enrichissements, parce qu'on voit grâce à vous la très grande variété des œuvres, on est loin des livres, et même on est encore plus loin des livres quand on pense que vous recevez aussi des médailles.
Oui,
non
tout
pas
à
parce
fait.
Que vous êtes décorée, bien que vous voilà. mériteriez, mais oui. Vous avez eu un oui. médaillé.
Voilà, les médailles qui sont des objets à la fois artistiques et historiques, ce sont aussi des documents d'histoire. Ce sont des documents figurés qui présentent beaucoup de portraits de personnages qui sont tout à fait importants ou qui sont réalisés par des artistes membres de l'Académie. Et nous avons reçu le médaillé de Georges et Édouard Bonnefous. Donc le chancelier Édouard Bonnefous a été chancelier de l'Institut de 1978 à 1993 et il a tenu à donner à la bibliothèque plus de 350 médailles, médaillons, jetons, décorations, plaques qu'il avait reçu, et son père avant lui, qui était homme politique également, qu'ils avaient reçu pendant toute leur carrière. Donc, ce sont des. Il y a même quelques médailles du XVIIe siècle qui ont été données, puisque. Voilà. Et c'est. Donc, c'est une source d'histoire, mais puis également de beaux objets à regarder.
Et c'est vrai que le médaillé était un siège qui existait, un fauteuil qui existait à l'Académie des Beaux-Arts et qui actuellement n'est pas pourvu,
non,
je crois,
depuis,
parce que
voilà,
ils se font de plus en plus rares.
Voilà, exactement. Depuis le décès de Raymond Corbin, il n'y a plus de graveur en médaille à l'Académie, alors qu'il y avait effectivement depuis l'origine toujours un graveur en médaille. Oui,
alors si vous êtes intéressé pour connaître bien d'autres détails, parce que là nous avons fait qu'effleurer les enrichissements de la bibliothèque de l'Institut, eh bien je vous conseille de vous reporter sur le site internet de la bibliothèque www.bibliothèque-institutdefrance.fr et sur ce site vous pourrez non seulement consulter le catalogue établi par Mireille Passoureau, mais vous pourrez aussi l'imprimer puisqu'il est à disposition. Merci Mireille Passoureau et j'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir une autre fois pour parler encore de ces merveilleux trésors de votre bibliothèque.
Avec grand plaisir. Au revoir Hélène.
Au revoir.